BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur a trouvé son rythme de croisière. C'est les pros, les cryptos. Bienvenue à tous. Chaque vendredi, nos pros, nos talents sont là. Cette semaine, Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie de Bitstack. Bonjour Alexandre.
Bonjour Guillaume.
Owen Simonin aussi est avec nous, fondateur de la chaîne YouTube Hacheur, avec un H au début s'il vous plaît. Et à la tête de Meria. Bonjour Owen.
Bonjour.
Ravi également de vous retrouver. Dans un instant, on va parcourir les grandes actus de cette nouvelle semaine crypto. D'abord, il est là avec nous, Xavier Fenot, tiens, associé pour Interactive Trading, qui répond à l'appel des pros des cryptos. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. On a un Bitcoin qui a du mal à repartir. On est toujours sous les 63 000 cet après-midi, 62 779. Vous le sentez comment là pour la suite, ce Bitcoin, d'un point de vue graphique, Xavier?
Ben, c'est vrai que le marché se cherche. En fait, on a eu quand même une semaine très fournie côté événements. On a eu l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Alors, ça détend le pétrole, mais les actifs risqués n'en profitent pas vraiment, en fait, tant que ça. On voit, on a à peu près partout une semaine assez flatte. Et puis, ben, on a eu surtout la Fed, la Réserve fédérale américaine. Première intervention de Kevin Warsh, alors que j'ai trouvé un peu évasif. Bon, il va changer tout le fonctionnement de la Fed avec des task force sur chaque sujet. Mais en fait, ce qui leur sort, c'est que les membres du FOMC ont relevé leurs prévisions côté taux directeur pour cette année avec une médiane à 3,8%. On était à 3,4% au mois de mars, en fait. Donc, ça veut dire qu'on aura a priori au moins une hausse des taux, voire deux. Et on a même 15% du marché qui en anticipe trois d'ici la fin de l'année. Donc, conséquence directe, on a une hausse du dollar américain et donc les actifs libellés en dollars baissent mécaniquement, comme l'or, mais aussi celui qu'on appelle l'or numérique, le Bitcoin. Donc, d'un côté, on a des actifs risqués à Wall Street, ça plafonne, et de l'autre, on a le dollar américain qui remonte. Du coup, sur le marché crypto, en fait, il retourne là où il était il y a une semaine, donc un peu en dessous des 63 000 dollars sur Bitcoin. On échoue au passage sur un niveau technique. C'est la moyenne mobile à 20 jours. En fait, c'est un repère de tendance à court terme. Elle est baissière, donc. Et tant qu'on reste en dessous, c'est vrai que Bitcoin a échoué, en fait, sur ce plafond vert après un rebond de quelques jours. Donc, pour les prochains jours, en fait, ce sera vraiment les 67 000 dollars à reconquérir pour au moins envisager une stabilisation un peu plus solide, parce que malheureusement, on a toujours une lame de fond négative depuis plusieurs mois. On préserve quand même encore la tendance de fond long terme haussière. Alors, je le disais ici semaine dernière, tant qu'on tiendra les 55 000 dollars, on a encore un peu de marge, mais plus trop. Donc, à savoir aussi, on rentre à nouveau côté psychologie de marché en peur extrême, si on regarde l'indice Fear and Greed Index. Et si on ratisse plus large, en fait, dans le top 50 des cryptos les plus valorisés, il y en a vraiment peu qui tirent leur épingle du jeu depuis un mois. On a, par exemple, NIR ou Hyperliquid, mais sinon, ça reste vraiment très limité. Alors, à l'image de son dauphin, l'Ether, lui aussi, comme Bitcoin, il a échoué il y a quelques jours sur cette fameuse moyenne mobile à 20 jours, toujours baissière, et qui devra donc pour lui reprendre les 1900 dollars sur l'Ether pour qu'on puisse considérer finalement que la baisse du mois de juin n'était qu'un excès baissier. Donc on n'a pas vraiment de nouvelles dégradations depuis une semaine, mais on a un marché crypto, on ne va pas se mentir, qui est toujours assez lourd pour l'instant.
Xavier Fenot, Interactive Trading. Je voyais à l'instant Owen hyper attentif à ce que vous disiez. Xavier, vraiment focus. Alors Alexandre, pas du tout. Le regard un peu ailleurs. C'est pas votre truc, l'analyse technique du Bitcoin, Alexandre.
Non, moi,
ça se confirme.
Alors, je dirais plus que ça se complète. C'est-à-dire que moi, je suis clairement pas expert de l'analyse technique ni du court terme. En revanche, là où je rejoins Xavier, c'est qu'il y a des signaux à court terme qui, à mon avis, ramènent effectivement notamment Bitcoin sur des prix qu'on a vus il y a une semaine, ce qui est pas non plus dramatique. Mais en revanche, à long terme, j'ai une toute autre opinion sur effectivement ce que ça veut dire, c'est notamment les annonces de la Fed.
On va en parler dans un instant, bien sûr, et au menu de vos pros des cryptos. Merci beaucoup, Xavier, de nous avoir accompagnés au menu cette semaine. Cette question sur Binance, bientôt hors-jeu ou pas en Europe, Binance, la plateforme qui concerne tant de monde, quand même beaucoup d'investisseurs crypto sont investis via Binance, pourrait ne pas obtenir l'agrément MiCA. L'analyse et les conséquences, surtout pour les utilisateurs, à suivre dans un instant. On parlera aussi de souveraineté monétaire et des nouvelles craintes de Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Elle a exprimé de nouvelles inquiétudes face au stablecoin dollar. Nos pros des cryptos ont des arguments pour peut-être la rassurer, Christine Lagarde. Vous les entendrez, ils les livreront leurs arguments, nos pros, à main nue. Ce sera dans une poignée de secondes. Et puis, en matière de tech, ce potentiel, dont on n'avait pas encore beaucoup parlé, mais on va apprendre à le faire, le potentiel des IA, des intelligences artificielles décentralisées. Vous savez que l'IA devient un enjeu géopolitique, les États-Unis comptent restreindre l'accès des non-américains aux meilleurs IA. Ça souligne notre dépendance vis-à-vis de la tech américaine, mais Grayscale, il voit une opportunité pour les IA décentralisées pour le coup. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Explication à suivre. C'est les pros des cryptos, votre épisode hebdomadaire, votre machine à remonter la semaine et anticiper l'avenir. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
avec donc Owen Simonin et Alexandre Stachenko. Cette semaine a vu deux gros dossiers avancer quand même. D'abord sur l'Iran, on a l'accord de paix qui a été signé, hein, le papier même au château de Versailles, qui devait lui-même, le château de Versailles, pas s'attendre à ce que ça se passe entre ses murs. Et l'autre grand événement qui devait se dénouer, c'était du côté de la Fed. On se demandait ce que donnerait la Fed version Kevin Warsh, avec ce nouveau président de la Fed qui a tenu sa première conférence de presse mercredi soir. Est-ce que vous avez vu une réaction des cryptos? En quoi ce sont de gros enjeux pour la suite, pour l'avenir des cryptos, et notamment, Alexandre, du Bitcoin?
Oui, on a vu une réaction. Alors, comme je le disais juste avant, il y a la réaction de court terme et puis il y a la signification de cet événement à très long terme.
Ouais.
Je me souviens qu'on avait déjà eu une forme de saga au moment de la nomination de Kevin Warsh, puisque Donald Trump a très envie de baisser les taux, ça l'arrangerait beaucoup. Et il avait un peu surpris son monde en annonçant la nomination de Kevin Warsh, qui avait pourtant lui-même une réputation plutôt hawkish, comme on dit, donc qui disait non, il faut peut-être pas forcément baisser les taux, on va peut-être aller dans la direction opposée, restaurer une forme de crédibilité orthodoxe entre guillemets des banques centrales, et donc ça avait déjà surpris à l'époque. Là, on voit que entre évidemment sa nomination et cette première décision, il y a un contexte qui a quand même radicalement changé. Il y a eu le conflit au Moyen-Orient en particulier, donc le retour de l'inflation, donc le retour des tentations de remonter les taux, et on l'a vu avec la BCE qui a remonté ses taux justement il y a maintenant quelques jours. Et donc on attendait avec impatience cette décision du premier meeting de Kevin Warsh. Ce qu'on a vu, Xavier l'a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter, mais on a maintenu les taux.
Oui.
Une partie substantielle du board maintenant anticipe des hausses de taux dans l'année qui arrive. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a eu cet abandon de cette politique qu'on appelle la forward guidance. Donc la banque centrale américaine arrête de donner des indications sur peut-être où est-ce qu'on va aller évoluer dans le futur. Alors c'est très intéressant parce que dans le fond, il a raison. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel je me suis assez longuement exprimé plusieurs fois. En fait, les banques centrales passent leur temps à essayer d'avoir un discours performatif sur le réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme on les juge sur leur capacité à créer de la confiance, elles vont tenir un discours qui non pas correspond au réel, mais correspond à ce qu'elles souhaitent. Donc, si vous regardez les prévisions des banques centrales ces 10 dernières années, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois, elles vont dire « vous inquiétez pas, dans un an, dans deux ans, on revient à 2% d'inflation ». Mais en fait, ça, c'est leur souhait, c'est pas la réalité, c'est jamais comme ça que ça se passe. Mm-hmm. Donc, elles donnent des indications qui sont toujours fausses, d'une certaine façon, alors pas toujours, mais fréquemment. Et Kevin Warsh dit « bon, on arrête ça, on doit défendre la crédibilité de la banque centrale, donc on va arrêter de donner des indications, on réagira en fonction des données disponibles ». Donc là où il a raison, c'est effectivement que je pense que ça va défendre la crédibilité de l'institution, à la fois de maintenir les taux, voire de les relever, mais aussi d'arrêter de faire du chamanisme, entre guillemets, de dire peut-être que demain ce sera X ou Y. Donc à court terme, Bitcoin a réagi comme Xavier l'a dit. À long terme, la question qui se pose, et je terminerai par ça, c'est ok, Kevin Warsh, il veut rétablir la crédibilité, l'orthodoxie.
Oui.
A-t-il la capacité de le faire? Parce qu'il dépend de la macro. Et la macro, on l'a dit, c'est des dettes publiques abyssales, c'est une bulle dans les marchés financiers, c'est le conflit au Moyen-Orient, c'est le retour de l'inflation. Est-ce qu'il pourra se permettre de maintenir cette orthodoxie? Je ne sais pas. Donc je pense que ce qui va se passer, mais là ça relève de l'opinion, c'est que probablement de façade il va défendre la crédibilité par les taux et par cette fin de forward guidance, mais peut-être que en sous-marin, il va reprendre l'expansion du bilan de la Fed, chose qui accessoirement a déjà repris depuis décembre.
À suivre, c'est important pour le marché des cryptos et du Bitcoin aussi, les politiques monétaires, bien évidemment. Vous disiez, il y a bulle sur le marché traditionnel. Ça se débat, faut écouter BFM Bourse tout à l'heure, 15h30 chaque jour.
Une partie, oui. Il y a des actions qui performent très bien parce qu'elles sont très bien aussi.
Effectivement, et puis il y en a effectivement qui sont en bulle. Justement, tiens, on va parler SpaceX. Alors, bulle ou pas bulle, là, on est une semaine après l'introduction en bourse de SpaceX. Même des Chinois, OS, ont pu acheter SpaceX malgré l'interdiction pour eux, et ils ont pu en acheter du SpaceX grâce aux cryptos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas directement, en tout cas pas systématiquement, acheté des actions SpaceX. Étant donné que c'est un domaine qui est très particulier, qu'on parle du domaine du spatial, les États-Unis ont donné des directives à certaines banques de ne pas permettre, notamment aux investisseurs chinois, de pouvoir investir sur ce genre de titres. La particularité, c'est que à travers la blockchain, il y a deux façons de s'exposer à des actions, notamment depuis que le monde de la tokenisation accélère. Soit des produits dérivés, c'est pas vraiment de l'exposition directe sur le titre, c'est de la spéculation sur la variation de son prix. Par exemple, les solutions que propose Binance sur SpaceX, en l'occurrence. Et il existe également carrément des actions qui sont tokenisées. Prenons l'exemple d'Xtox, la solution Kraken. À ce moment-là, il s'agit réellement d'un jeton qui représente le sous-jacent, et le sous-jacent, lui, c'est bel et bien la détention d'un titre SpaceX. Étant donné que c'est beaucoup plus, on va dire, une zone grise d'un point de vue juridique, certains investisseurs chinois ont pu, entre guillemets, s'exposer sur ce titre, donc c'est même pas contourner une interdiction, c'est plutôt qu'il y a un vide juridique sur le fait que ce soit autorisé ou non, et ils ont réussi à exposer une partie de leur portefeuille, non pas au titre SpaceX directement, mais à travers des actions tokenisées ou à travers des produits dérivés qui leur ont permis de capter la variation du prix depuis le listing.
Et oui, l'eau trouve toujours un chemin pour continuer à courir et à couler. Alors, ça a permis cette introduction en bourse de SpaceX, d'Elon Musk, de devenir, alors il était déjà l'homme le plus riche du monde, mais le premier homme véritablement humain à avoir une fortune personnelle franchissant les 1000 milliards de dollars. Mais même plus, la fortune d'Elon Musk, figurez-vous, a dépassé la market cap du Bitcoin cette semaine. C'est fou ça quand même. Elon Musk, plus gros que le Bitcoin. C'était en début de semaine, hein, quand SpaceX était au plus haut, quasiment 1400 milliards de dollars de fortune personnelle au-dessus de la market cap du Bitcoin ce jour-là, Alexandre.
Bah, après, on rappelle, parce que dans le débat public français, la façon dont est traité ce sujet est parfois, on va dire, très artisanale. C'est une fortune qui n'est pas disponible en liquidité immédiate, donc elle peut tout aussi bien baisser de 500 milliards la semaine prochaine si SpaceX reste en cours.
Et elle a déjà baissé d'ailleurs.
Donc, voilà, il faut aussi garder mesure. C'est un bon titre au sens où je pense que il y a clairement quand même un indicateur, c'est un ordre de grandeur qui est majeur, c'est une personne qui est le premier trillionnaire de l'histoire, donc c'est quand même assez important. Mais j'ai déjà vu comment c'est traité par certains politiques en France, de voilà, il est devenu super riche, il peut sortir 1000 milliards de sa poche. Calmons-nous, c'est des actifs mobiliers, des valeurs mobilières, donc ça peut fluctuer en valeur. Et Bitcoin aussi, hein. Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, c'est un actif qui résiste malgré contre l'envahisseur, entre guillemets, si on reprend des citations d'Astérix, malgré tout ce qu'on lui met dessus, toutes les autorités publiques qui sont contre, et qui résiste depuis plus de 15 ans maintenant, et qui s'est fait une niche depuis des années et des années dans ce top 15-20 des actifs mondiaux.
Dans un instant, on parlera de Binance avec vous, Owen, mais puisque vous me tendez la perche, je vous dis que Bitcoin, c'est formidable, c'est la potion magique.
Non,
je sais que vous le pensez. Eh bien, figurez-vous qu'une sénatrice américaine va dans votre sens sur Bitcoin. Elle y voit un bienfait pour les jeunes générations. Bitcoin, en plus de ses propriétés, c'est vrai, souvent célébrées ici dans les pros des cryptos, ben Bitcoin pourrait aussi résoudre les injustices intergénérationnelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs?
Résoudre, non. Faut jamais, c'est jamais monofactoriel. En revanche, ce qu'elle dit est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on constate factuellement. Je veux mentionner deux choses à cet égard. Dès les premières études qu'on avait fait lorsque je travaillais avec KPMG, donc les études Adan Ipsos sur les Français et Bitcoin, on avait déjà mentionné qu'il y avait un transfert générationnel évident. Dans tous les pays qui sont sondés, la variable discriminante numéro 1 dans la détention de Bitcoin, c'est l'âge. Et donc, on se rend compte que l'actif le plus performant des 15 dernières années, pour une fois, par rapport à tous les autres actifs, l'immobilier, les actions, etc., qui sont plutôt réservés à des gens qui commencent à avoir une épargne et plus âgés, eh bien, pour une fois, cet actif le plus performant, c'est les jeunes qui le détiennent. Donc, évidemment, il y a un aspect transfert générationnel là-dedans. Mais une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'il y a maintenant, je crois, 2 ans, 3 ans peut-être, la Banque Centrale Européenne avait publié un papier qui était assez marquant parce que pour la première fois, elle disait dedans, Bitcoin ne va peut-être pas mourir. Alors qu'à chaque fois, elle dit, je m'en fiche, de toute façon, ça meurt l'an prochain, c'est pas intéressant. Là, elle disait, mais changeons de raisonnement. Et si jamais ça ne meurt pas, virgule, quelles sont les conséquences? Et donc, le papier traitait des conséquences si Bitcoin ne meurt pas, il se passe quoi? Et ce qui était très drôle avec ces conséquences, c'est qu'il disait noir sur blanc qu'il y aurait un transfert de richesse vers les premiers entrants, vers ceux qui ont déjà du Bitcoin, et que les pauvres latecomers, eh bien, eux, malheureusement, ne seraient pas exposés à cette hausse du prix. Sauf que ce qu'il disait pas en sous-marin, c'est que, ok, je vous prends au mot, qui sont ces gens? Qui sont les early adopteurs de Bitcoin et qui sont les latecomers de Bitcoin? Les early adopteurs, c'est les jeunes, les personnes modestes. Aux États-Unis, ça va être les minorités ethniques. Dans le monde, ça va être un Nigeria, Philippines, etc. Ça va pas du tout être effectivement le retraité français. Qui sont les latecomers? La Banque Centrale Européenne, les États qui en veulent pas. Etc., etc.
Et donc, c'est la BCE qui a livré ce diagnostic,
alors,
vous le dites.
La deuxième partie, c'est moi. Mais la partie transfert entre les latecomers et early birds, c'est exactement leur diagnostic. Et ce qu'ils ne se rendent pas compte, justement, c'est ça qui est drôle, et je termine par ça, c'est qu'en disant cela, ils disent la contraposée, c'est-à-dire le système monétaire fiat, il organise un transfert générationnel dans l'autre sens. Et c'est effectivement ça qui devrait être un débat de société aujourd'hui. Oui. Le système monétaire fiat, c'est le principe de l'effet cantillon, organise un transfert générationnel dans l'autre sens que celui que décrit
l'humiste. C'est la deuxième fois depuis le début des pros des cryptos que vous terminez votre propos, ou quasi terminé, en disant, et je termine par ça. Faites gaffe, les politiques font la même chose. Vous savez, quand ils sentent qu'ils sont un peu longs, mais qu'il faut encore faire avaler un peu, ils disent toujours pour faire patienter. Attendez,
j'ai ma candidature pour 2027. Ouais.
Ah, qui sait. La date
ça manque de candidats, je trouve.
Alors, d'ici là, il y a une autre grande échéance 1er juillet prochain. La date fatidique approche pour les plateformes n'ayant pas encore reçu l'agrément MiCA. Le stress monte avant le 1er juillet. Donc, d'après Reuters, Binance pourrait ne pas obtenir son agrément MiCA et donc pourrait perdre son droit d'exercer une activité dans l'Union européenne. Le point faible de Binance, d'ailleurs, apparemment, c'est la Grèce.
Tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Binance avait décidé de passer par la Grèce et donc le régulateur grec pour obtenir sa licence et donc son agrément MiCA. Cet agrément permet ensuite d'adresser tous les 27 pays européens et adresser directement le marché retail, c'est-à-dire distribuer ses services sur actifs numériques, quel que soit le territoire. Binance, aujourd'hui, c'est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. On parle de plus de 300 millions d'utilisateurs. Et c'est également la poche de liquidité qui vient sourcer une grosse partie des autres brokers ou des autres plateformes qui utilisent différentes sources de liquidité afin d'avoir une profondeur de carnet d'ordre et d'offrir à leurs clients les meilleurs prix possibles. Le fait que Binance ne soit potentiellement, j'insiste là-dessus, potentiellement plus capable de délivrer ses services en Europe à compter du 1er juillet, ça fait poser plein de questions, ça doit faire anticiper plein de câblages techniques d'infrastructures et de flux financiers pour les autres plateformes crypto, et surtout, ça questionne les utilisateurs. Qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, la première chose, c'est que il s'agit bel et bien d'une rumeur qui est remontée par Reuters, qui semble être plutôt fiable et solide, sauf que Binance dément, explique que, aux dernières nouvelles, de par leur discussion avec le régulateur grec, ils étaient considérés comme conformes et sur le point d'obtenir cette licence. Mais il y a d'autres rumeurs, notamment sur des discussions qui auraient eu lieu avec Christine Lagarde, donc directement, et le gouvernement grec, afin justement de s'opposer à la distribution de cette licence pour que Binance ne puisse pas l'obtenir. Les grosses questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les 12-13 prochains jours, puisque l'échéance est très courte pour avoir une réponse. S'ils viennent déposer un dossier dans un autre pays, on parle de 3 à 4 mois de délai pour les dossiers les plus courts. Donc, ça fait quand même très très long, sans avoir de visibilité sur le fait qu'ils aient le droit ou non de distribuer leurs produits en Europe. Et pour finir, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est plutôt pour rassurer les utilisateurs, la plateforme ne va pas fermer du jour au lendemain et partir avec vos fonds. S'ils ont une interdiction d'exercer, ils ont un plan de continuité et en gros, ils ne vous permettront plus d'échanger ou d'acheter de la crypto-monnaie, mais si vous en possédez sur la plateforme, vous pourrez toujours la retirer, la récupérer ou la rediriger vers une autre plateforme qui aura obtenu sa licence d'ici là.
La France pourrait aider Binance. Enfin, c'est voilà, il y a la Grèce, il y a la question de effectivement du rôle que peut jouer la France. Et puis derrière, celle qu'on abordera ensemble, Owen, aussi des conséquences pour les utilisateurs. Déjà, la France peut-elle sauver Binance en Europe?
La France pourrait être le dernier pays à pouvoir le faire. En fait, ce qui est particulier, c'est que Binance était déjà bien implanté en France, mais Binance a un historique. Que ce soit avec le traitement de son CEO, qui a été Sisi à l'époque, qui a fait 4 mois de prison aux États-Unis, qui a ensuite été gracié, mais qui globalement a du coup un historique relativement lourd, et le fait que Binance était historiquement enregistré en tant que prestataire de services sur actifs numériques en France, ils avaient déjà une certaine proximité avec le régulateur, même si il semblerait que ce développement qui avait commencé quand même par une rencontre entre Sisi et Emmanuel Macron à l'époque, n'ait pas été développé plus que ça sur le territoire français. La vraie question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, l'autorité des marchés financiers, qui a quand même la réputation d'être particulièrement stricte et pragmatique, pour le coup, en termes de régulation, serait capable de réouvrir la porte à Binance? Et si tel était le cas, sur un délai aussi court, de donner un délai supplémentaire de clémence, afin qu'ils aient le temps d'instruire ce dossier correctement? Et à ce moment-là, permettre à Binance de s'installer ici, mais ce serait visiblement plus une décision politique aujourd'hui qu'une décision simplement financière.
Alexandre, c'est gros quand même si Binance doit quitter l'Union européenne.
Oui, c'est très gros. Alors, en fait, sur cette date butoir du 1er juillet, pour moi, il y a trois points de vue, dont deux assez rapides. Le premier, c'est le point de vue du consommateur. C'est quelque chose qui est bien pour lui. On le répète depuis des années, le marché mature. Le fait d'avoir une forme d'épuration des acteurs qui ne respectent pas un certain niveau de conformité, de sécurité, de cybersécurité, etc., c'est positif pour lui. Le deuxième point de vue, c'est le point de vue des entreprises MiCA, dont évidemment Bitstack fait partie. C'est que nous, on sait qu'il y aura des gens qui vont être orphelins, qui vont chercher des plateformes. C'est à nous de les convaincre et qu'évidemment, on fait partie des solutions qui sont intéressantes. Mais le troisième point de vue, moi, qui m'inquiète, et d'une certaine façon, j'espère que l'information qui a été relayée par vos confrères de The Big Whale est fausse, c'est cette intervention de Christine Lagarde. Parce que là, si c'est vrai, je remets tous les si, les conditionnels qu'on veut, mais si c'est vrai, c'est extrêmement grave. On est sur l'intervention d'une institution qui est censée être indépendante, mais qui ne le serait plus du tout, qui intervient politiquement dans le rôle d'une autorité de régulation indépendante pour dire « vous m'empêchez tel acteur d'opérer en Europe ». Donc on serait dans une forme de délire où une entité non élue et indépendante se permet de décider quelle entreprise a le droit d'opérer en Europe. Ça, ça relève, à mon sens, si c'est vrai, d'un scandale assez important. D'autant plus si la motivation de fond, c'est en tout cas ce que suggère The Big Whale, c'est ces discussions sur l'euro numérique. C'est-à-dire les stablecoins sont perçus comme une menace à la souveraineté, et on pourra en parler tout à l'heure, mais pour moi c'est un peu exagéré, ou en tout cas il y a un double discours ici. Et c'est un prétexte tout trouvé pour pousser un euro numérique, dont accessoirement personne ne veut. Et donc elle se servirait de ce levier-là pour évincer une plateforme, comme l'a dit Owen, qui est un vrai canal de liquidité pour ces stablecoins en Europe. Donc, en fait, c'est de la politique à ce stade, et on devrait espérer que dans une zone économique, un état de droit comme l'Union européenne, on n'ait pas ce genre de décision arbitraire dans un bureau de qui a le droit d'opérer ou non. C'est un peu normalement à ça que sert une régulation.
Si les choses sont confirmées, on est d'accord.
Si les choses sont confirmées, c'est pour ça que je mets ainsi, et que j'espère d'une certaine façon que cette information est fausse.
Qu'est-ce qui va se passer là concrètement? Parce que des utilisateurs de Binance, il y en a plein quand même. C'est une immense plateforme Owen. Concrètement, comment ça va se passer? D'ailleurs, ils ont reçu un mail de Binance qui les a peut-être déstabilisés cette semaine, qui leur aura appris qu'effectivement il y avait un risque. Comment vous voyez la suite pour tous ces utilisateurs?
Alors premièrement, Binance s'est engagé à communiquer avant le 1er juillet. Ce délai n'est pas anodin, hein. C'est la deadline justement pour être compliant, et c'est également le temps qu'ils vont avoir besoin pour avoir un petit peu plus de visibilité. La deuxième chose, c'est que c'est difficile de savoir exactement ce qui va se passer maintenant, parce qu'il y a différents cas de figure. On a déjà vu dans le passé des autorités demander l'offboarding de certains clients dans un délai très court, c'est-à-dire que la plateforme passe sur une liste noire, qu'elle est considérée comme n'ayant pas le droit de présenter ses services, et dans l'illégalité si elle le fait. Elle doit donc virer elle-même les utilisateurs qui sont sur sa plateforme. Il y a une différence entre être positionné sur liste noire et aller à l'encontre de la régulation, et avoir essayé de s'enregistrer, ne pas être dans les délais, ou avoir besoin d'un délai de clémence supplémentaire. En fonction de la situation, Binance pourrait soit avoir un accord global, commencer un enregistrement dans un pays et à ce moment-là avoir un cas sur mesure où, par exemple, les utilisateurs ne pourraient pas pendant une certaine période pouvoir échanger ou acheter de la crypto-monnaie, mais pourraient simplement accéder à leur solde et retirer leur crypto-monnaie jusqu'à ce que les services soient rétablis et que Binance récupère le droit et l'autorisation de distribuer ses services dans l'Union européenne. Ou alors, il pourrait avoir un délai pour justement off-border, c'est-à-dire permettre uniquement aux clients de retirer en expliquant qu'à une date précise, ils ne pourront plus du tout continuer leur service dans la zone européenne. Ils pourraient également chercher à avoir des accords pays par pays, sauf qu'évidemment, avec l'historique de Binance aujourd'hui et le peu de temps qu'ils ont, il semblerait complexe qu'ils aillent chercher des délais de clémence dans plusieurs pays en moins de 2 semaines.
On va suivre ça très très près, bien sûr. C'est les pros des cryptos, à retrouver tout au long du week-end en podcast, replay et sur notre chaîne YouTube BFM Business. L'IA devient un enjeu géopolitique. Les États-Unis veulent restreindre l'accès aux meilleures IA d'Anthropic aux seuls Américains. Ça souligne en tout cas notre dépendance vis-à-vis de la tech américaine, y compris en matière d'intelligence artificielle. Eh bien, Grayscale y voit une opportunité. Grayscale y voit une opportunité pour les IA décentralisées, qui ne dépendraient pas comme ça d'un État ou d'un pays. C'est quoi la différence, Owen, entre les IA telles qu'on en parle régulièrement ou qu'on les pratique et les IA décentralisées?
Une IA décentralisée, c'est un modèle qui a été entraîné et généré par différentes puissances et qui est complètement open source. Aujourd'hui, quand on a les États-Unis, pour une raison X ou Y, qui se voient dans l'interdiction de distribuer le nouveau modèle Fable, ou du moins Mythos, à tout ressortissant étranger, on se rend bien compte qu'à partir du moment où un outil puissant, même s'il vient d'intelligence artificielle, venait à être dangereux, un pays pourrait tout simplement le retirer des mains et des accès d'autres pays ou d'autres populations. Très simplement, on l'a déjà vu de la même façon au niveau des différents flux financiers. Quand il y a une guerre ou qu'il y a un conflit qui explose, les États-Unis ont déjà, évidemment, gelé des flux financiers et saisi des dollars à la partie qu'ils essayent, entre guillemets, de mettre en porte-à-faux. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la décentralisation permettrait d'entraîner des modèles, et des modèles qui ne seraient pas censurables. Des modèles qui, à partir du moment où un utilisateur peut utiliser la puissance informatique nécessaire à faire fonctionner ce modèle IA, il aurait exactement les mêmes accès, sans censure possible, sans qu'un État puisse prendre la décision de bloquer, pour une raison arbitraire, un utilisateur ou un autre. On a vu certaines blockchains décentralisées qui proposent et qui sont en lien avec l'intelligence artificielle prendre un petit peu de valeur, mais ce que ça rappelle, c'est surtout un message de fond. Fable, Mythos, le modèle proposé par les États-Unis est un modèle particulièrement puissant. Fable, d'ailleurs, c'était l'équivalent de Mythos, mais qui avait été restreint et contraint en limitant le risque, notamment sur des questions de sécurité informatique ou sur des questions biologiques. Car un simple utilisateur qui pose de terribles questions avec le modèle Fable peut faire des choses qui sont vraiment horribles. On a trouvé des utilisateurs qui ont réussi à trouver des failles informatiques dans des protocoles financiers très importants, simplement parce qu'ils savent intelligemment utiliser l'intelligence artificielle sans avoir d'expertise. On peut comprendre que les États-Unis essayent de se protéger, mais ce que ça veut dire, c'est que le monde va très vite en termes d'intelligence artificielle, ça accélère très fortement, et aujourd'hui, il faut qu'il y ait une certaine souveraineté en termes d'accès à l'intelligence artificielle, sinon certains pays pourraient être mis sur le banc de touche par une simple décision politique.
Alexandre, what else? Quelque part.
Non, bah sur les enjeux de souveraineté, je suis aligné. Donc, ça fait un certain temps que, je le répète, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de modèles IA, etc. Sur la partie IA décentralisée, là où je suis moins bullish peut-être que Owen, c'est que je pense que, par définition, dans l'IA, justement, on l'a dit, on va chercher l'efficience, on veut plus de puissance de calcul, on veut plus de tokens, etc. Ouais. Et par définition, les modèles décentralisés vont avoir tendance à favoriser la résilience. C'est une des raisons pour lesquelles Bitcoin, c'est pertinent que ce soit décentralisé, parce que la proposition de valeur qu'on vient chercher, c'est l'incapacité à être censuré et on est prêt à attendre 10 minutes pour faire une transaction. Dans le cadre de l'IA, je ne vois pas un usage d'une IA décentralisée qui soit compétitif contre du centralisé tant qu'on n'aura pas des vraies grosses décisions de maintenant c'est terminé, on ferme les écoutilles et puis merci, vous avez plus accès à nos IA type effectivement Anthropic, OpenAI, etc. Donc on va voir les développements, mais je pense que c'est le genre de cas d'usage sur lesquels on va avoir une telle prime à être centralisé et efficient qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup pour que l'IA décentralisée soit compétitive.
Bon, ceci dit, ils ne sont pas les meilleurs dans tout, les Américains, quand même. Tiens, regardez, en matière fiscale ou taxation, on se dit qu'on est les pires dans le monde ou parmi les pires. Non, aux États-Unis, on a trouvé un peu pire. Dans l'État de l'Illinois, Alexandre, on veut taxer à un point de punition apparemment jamais vu. Enfin, voilà, 0,2% par transfert. L'Illinois adopte la taxe crypto la plus punitive des États-Unis.
Bah, comme toute transaction par transfert, ça devient extrêmement punitif parce qu'il suffit de faire quelques transactions dans l'année pour se faire taxer à chaque mouvement, à chaque opération.
Vous multipliez.
Ça devient en plus un enfer déclaratif, je suppose, de le faire. Maintenant,
on aura les IA pour déclarer.
Ne crions pas ça, hein. Victoire trop vite, puisque je rappelle que le sujet de la taxation sur les transactions financières ou sur le patrimoine, etc., revient extrêmement fréquemment en France et en Europe de manière générale. Donc, c'est intéressant de voir qu'un État américain, alors qu'ils ont plutôt réputation d'être moins sévères que nous sur la fiscalité, va jusque-là. À mon avis, ça témoigne de quelque chose de fond, à savoir de la mauvaise presse qu'ont les cryptos, parce que ça veut dire que les contribuables et les citoyens sont capables d'accepter une transaction, une taxe par transaction, alors que dans la culture américaine, ce serait impensable d'aller sur ce genre de choses. Donc ça veut bien dire qu'on est très très loin en termes de rejet du sujet crypto et qu'on a encore évidemment un travail important à faire d'éducation.
Owen, ça vous rassure, dans l'Illinois, on a trouvé pire qu'en Europe ou qu'en France ou que dans les pays les plus fiscalisés?
Je me demande si c'est pas une erreur. Est-ce que c'est vraiment une volonté de punir, de sanctionner et d'annuler toute activité crypto, ou est-ce qu'à la base c'est pour taxer très peu ceux qui font peu de transactions, mais sans se rendre compte que cette loi va tout simplement détruire le métier d'échangeur de crypto-monnaie, car taxer à la transaction, c'est tout simplement dire on ne veut plus de transactions et il faudra être fou pour faire passer des flux là-bas. Je sais pas, je trouve ça même incohérent tellement c'est punitif.
Merci à tous les deux, les pros des cryptos. Votre épisode hebdomadaire. Merci à Owen Simonin, Asher, Meria. Asher, allez, combien d'abonnés, Owen?
812 000, je crois, 813 000.
Ah, ça a monté encore, alors. Et qui va l'arrêter?
Tranquillement, mais sûrement.
Ouais, c'est clair. Merci, Owen. Merci à Alexandre Sachenko également.
Merci.
Directeur de la stratégie de Bitstack. Salut, Alexandre.
15 400 abonnés, mais on arrive.
Ah oui, mais alors, quels abonnés? Attention.
Quels abonnés, évidemment.
Ils sont très grands, hein, chacun. Merci de nous avoir accompagnés, les pros des cryptos, retrouvés tout au long du week-end. Bon après-midi. Comme ça, c'est bien. Bon après-midi.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.